Jean chapitre 21, versets 12 à 19. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus venait de ressusciter. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, et fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, plus que ne m'aimes ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Puis Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Voilà un texte qui est bien connu, avec une petite subtilité, on va la voir au fur et à mesure, mais juste pour recadrer, juste un peu avant, enfin quelques temps avant, Pierre avait renié trois fois le Christ, alors que bien avant, il avait dit, « Moi, je suis prêt à aller mourir à Jérusalem avec toi. » Et quand l'occasion a été donnée, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'enfuit avec tout le monde. Alors, on ne va pas lui jeter la pierre, parce qu'à mon avis, on aurait fait pareil. Mais voilà, c'était un homme prétentieux qui était prêt à suivre Dieu, à suivre Jésus, mais qui ne se connaissait pas, tout simplement. Il va se retrouver là, un peu coincé avec le Seigneur, au bord de la plage, avec un repas. Et pendant ce repas, ils vont avoir une conversation, une très bonne conversation, et je pense aussi une conversation extrêmement profonde avec son Seigneur. Et c'était l'occasion pour Pierre, avec Jésus, de faire un bilan vis-à-vis de ce disciple qui s'évaluait tellement au-dessus de tout le monde, et qui finalement était plus minable que personne, on pourrait dire. Et là, Jésus va évaluer son amour. Comment tu m'aimes, vraiment? Et pour nous, peut-être, c'est l'occasion aussi de nous poser la question, comment est-ce que j'aime Jésus-Christ ce matin, enfin, en général? Est-ce que je fais des fois un bilan de l'amour que j'ai pour mon Seigneur? Si je vous demandais si vous aimez Jésus-Christ, vous diriez quoi?
Oui.
Ouais, mais à quel point? C'est ça la question. Il aimait Jésus, hein, quand il disait qu'il voulait mourir avec lui, il aimait Jésus, mais notre amour des fois entre la réalité et... c'est pas toujours la même chose. Dans le premier temps, on va voir un peu le diagnostic que le Seigneur va faire avec Pierre, et là il va vraiment le travailler en profondeur. La première étape, c'est qu'il va travailler sur son orgueil. Alors je sais que nous n'avons pas d'orgueil, donc nous n'avons pas à vivre ce genre de choses, mais des fois que vous soyez orgueilleux, c'est une bonne occasion d'apprendre. Il fait un premier test de l'amour de Pierre, et il commence, et c'est là où il y a une subtilité dans le grec, et il demande à Pierre s'il aime, c'est-à-dire agapeo, c'est-à-dire est-ce que tu m'aimes vraiment, profondément, et il dit en plus que les autres. L'amour agapao, ou agapé, comme on dit, est un amour extrêmement profond. Par exemple, dans Jean 3,16, quand il est dit que Dieu a tant aimé le monde, il nous aime de cet amour agapeo, profondément. Et quand on voit qu'il a donné son Fils unique, on comprend l'amour que Jésus a pour chacun d'entre nous. Et Pierre, humilié, va répondre, pas qu'il l'aime agapao, il va dire qu'il l'aime philéo, c'est-à-dire qu'il l'aime comme un ami. Voilà, c'est un amour un peu moins intense, on va dire, que l'amour agapao. Pourquoi il dit ça? On va voir. On voit aussi, d'une certaine manière, comment Jésus l'aborde, c'est que ça rappelle un peu l'effet passé. D'abord, Jésus ne l'appelle pas Pierre, mais il l'appelle Simon, fils de Jonas. C'était son nom avant. Un peu comme pour lui rappeler sa vie passée. Tu vis comme tu vivais autrefois. Et puis, par trois fois, il va revenir vers lui en lui posant la question, est-ce que tu m'aimes? Peut-être, alors certains disent, c'est par rapport au triple reniement qu'il aurait fait. Il travaille trois fois l'amour de Pierre, peut-être en souvenir des trois fois où il a renié. Il aurait très bien pu renier une fois, puis la deuxième fois, il aurait pu peut-être culpabiliser, mais non, il a continué trois fois. Le Seigneur lui avait dit, de toute façon. Mais en cela, le Seigneur cherche à détruire l'orgueil de Pierre. Jésus lui demande s'il l'aime plus que les autres disciples. Avant, il se comparait, Pierre. Il était prêt à dire, moi, je suis le meilleur, je suis le disciple qui va aller jusqu'au bout. Et là, ben, après son reniement, ça a dû un peu le calmer, j'imagine. Ça a dû être douloureux à vivre ça, je pense. Mais maintenant, le Seigneur le remet devant cette même circonstance, quelque part, et il dit, est-ce que tu m'aimes plus que les autres, comme tu l'as dit jusqu'à présent ? Et évidemment, Pierre, ben, il n'est pas très fier à ce moment-là. Et se souvient des paroles du Seigneur qui lui avait dit, hein, que lui avait dit au Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Et dès que c'était l'occasion, il est parti. C'était l'orgueil, tout simplement. Peut-être des fois, on veut suivre le Seigneur, on est prêt à tout pour lui, par orgueil, pas par volonté juste de le suivre. Et c'est très subtil, l'orgueil, des fois. L'orgueil nous conduit des fois à exagérer, peut-être ce qu'on est capable de faire pour le Seigneur, à nous mentir à nous-mêmes, mais jamais ça apporte quelque chose de bon en nous. En fait, il vaudrait mieux rester humble. Et c'est ce que va faire tout simplement Jésus avec son disciple. Ok, tu voulais te la péter, entre guillemets, hein ? Tu as vu à quoi tu ressembles réellement. Maintenant, je te propose de changer et de t'améliorer, tout simplement. Dieu est formidable, hein ? Jésus aurait pu dire, attends, tu m'as renié 3 fois, maintenant, fini, je ne veux plus rien savoir avec toi. Non, il revient vers son disciple. Et en plus, c'est là où je trouve ça formidable, parce que vous confieriez une mission telle que l'Église à ce disciple à ce moment-là ? Honnêtement, hein, quelqu'un qui fait vraiment mal les choses, qui a montré qu'il n'avait pas de foi ou qui n'est pas capable d'aller avec le Seigneur jusqu'au bout, vous lui confiez à ce moment-là la mission de l'Église ? Jésus, il ne réagit pas comme nous, hein, des fois. Et c'est très pédagogique derrière, d'une certaine manière. Hein. Et bien, lui, Jésus lui confie en premier les agneaux. On ne parle pas de brebis. Dans le grec, c'est les agneaux. C'est-à-dire les petits du troupeau. Allez, vous savez à quoi ça ressemble un agneau, c'est tout mignon. Mais il dit ça peut-être pour commencer par rappeler que Pierre lui-même est quelque part cet agneau-là, qu'il est faible, aussi faible que ces agneaux. Et que parce qu'il est faible, et bien maintenant il va commencer à comprendre les autres. Quand on est fort, quand on se dit un super chrétien, on regarde tout le monde de haut en disant « moi je suis le super chrétien, vous êtes des petits chrétiens ». Et donc, mais là, devant tout le monde, on a vu que c'était le seul qui a renié. Et donc, enfin bon, les autres, ils ont fui, hein, ils n'ont pas renié, mais taillot. Mais là, voilà, maintenant, il se rend compte que lui-même, il est aussi faible, et qu'on est humilié à ce point-là, et surtout par le Seigneur directement, ça calme l'orgueil, ça calme le cœur, mais maintenant, je suis prêt à comprendre les autres aussi. Je peux comprendre quand quelqu'un est dans la faiblesse, dans la difficulté, plutôt que venir le juger en disant « t'es un mauvais chrétien ». C'est toujours facile de juger les gens, tellement simple. Ce chrétien, t'as vu ce qu'il a fait dimanche, tout ça, comment il fait dans sa vie, pourquoi il est dans cet état-là, ça il faut se poser la question aussi. Mais là, lui maintenant va apprendre à considérer l'autre parce qu'il sait que lui-même, il est exactement pareil. Et je pense pas qu'il y ait ici quelqu'un dans la salle qui soit tellement fort, on est tous pareils quelque part, on est tous faibles devant le Seigneur. Et il est bien de passer par cette épreuve, je pense, et si vous la voulez pas, vous l'aurez quand même un jour ou l'autre, sauf si vous êtes vraiment humble. Parce que ça nous permet de comprendre les autres, justement, et de ne pas juger, de ne pas nous surévaluer dans notre vie spirituelle. Et rester simplement là où le Seigneur nous sait, évidemment. Et quand on a un cœur humble comme ça, forcément, on va regarder les autres avec beaucoup d'humilité. On ne va pas juger, on ne va pas les casser. On est tous au même niveau, vous savez. Alors, on grandit différemment, mais on est tous au même niveau. La deuxième étape qu'il va faire, c'est soigner les prétentions que Pierre avait à aimer Christ au verset 16, hein, deuxième test de l'amour. Et il revient vers Pierre et Jésus demande à nouveau s'il l'aime profondément. Cette fois, il emploie de nouveau le mot agapao. Il insiste par rapport à cet amour que Pierre devrait avoir pour lui normalement. Et Pierre répond à nouveau, comme la première fois, Philéo, je t'aime bien, j'ai des sentiments pour toi, mais ça ne va pas plus loin pour l'instant. Bon, on se demande pourquoi Jésus répète encore une fois cette phrase. Ben, je pense qu'il voulait tout simplement que Pierre prenne le temps d'analyser vraiment son amour, où il en était. Même Pierre lui-même reconnaît qu'il n'est que filéo, alors que Jésus voudrait qu'il aille beaucoup plus loin que ça. Donc il y a une analyse qui se fait là sur l'amour de Pierre. Celui qui était prêt à tout pour Jésus, maintenant, se retrouve devant la réalité de ses prétentions, devant la réalité de ce qu'il est vraiment. Alors, peut-être que nous, dans notre cas, on se dit on est prêt à suivre Jésus jusqu'au bout, mais s'il y avait des lions en face de nous, d'être prêt à mourir. Ça fait mal, un lion. Hein. C'est encore ça tuer d'un seul coup, mais ça vous bouffe tout doucement. Mais est-ce qu'on aime assez Jésus pour aller jusque-là ? Eh oui, c'est ça que Jésus est en train de demander à Pierre, tout simplement. Hein. Est-ce que je suis prêt vraiment à aimer Jésus de cette manière-là. Il a des objectifs, il veut soigner Pierre pour son arrogance, hein, sa présomption, et tout cet amour finalement qui est fragile. Parce qu'on aime Jésus, mais on ne se rend pas bien souvent compte qu'on est très fragile dans ce domaine-là. Et nous, est-ce que nous avons un amour infaillible pour le Seigneur? Ou est-ce qu'il est fragile? Est-ce qu'on se pose même la question? Où est-ce que l'on suit dans cet amour pour le Seigneur? C'est bien de s'évaluer, prendre le temps de voir nos comportements, mais on voit aussi notre amour pour Christ dans notre vie quotidienne. Avoir soif de la parole, comme ce fameux psalmiste, comme on a vu tout à l'heure, c'est un signe, l'amour pour Dieu. Parce que si j'aime le Seigneur, j'ai envie de le connaître, j'ai envie de connaître sa parole, évidemment. Ma fréquentation de l'Église, ma lecture de la Bible, ma façon de pardonner, l'amour que j'ai pour les autres, tout cela montre à quel point j'ai de l'amour pour le Seigneur. Ou pas, ou à moitié, ou un dixième. Vous savez où vous en êtes, chacun. Parce que quand on dit aimer quelqu'un, hein, quand on est amoureux, qu'est-ce qu'on fait? On dit à sa future chérie, je te vois dans un an, et puis on se verra encore une année plus tard. Vous croyez vraiment qu'elle va croire que vous l'aimez? Honnêtement? La femme, elle est là, elle est là-bas. Elle ne serait pas venue avec moi. On est bien d'accord. Mais pourquoi ça serait différent avec le Seigneur? Si je dis que j'aime le Seigneur, que de temps en temps, je réponds à son appel et que je dis, oui, je t'aime, mais non, ça ne marche pas comme ça. Et ça démontre mon amour, justement, pour lui. Comment je le fréquente, comment je cherche à le connaître, et parce que je le connais, forcément, comment je vais le suivre. Et tout ça, ça démontre l'amour que j'ai pour mon Seigneur. Le vrai amour, et c'est ce que dit Jésus à Pierre ici, c'est un amour qui est réaliste. C'est pas un truc de cuicui les oiseaux. On doit être réaliste par rapport à notre amour. Et quand on est réaliste, la seule chose qu'on voit en nous, c'est quoi? Qu'on est fort? Vous vous sentez fort, spirituellement? Vous n'osez pas répondre, hein? Non, on est faible. Tout le monde est faible. Parce qu'on n'est déjà pas devant des situations données aussi, parce que là, aujourd'hui, on peut se sentir fort, mais demain, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Mais le fait de devenir réaliste, ça change complètement votre façon d'aimer. Si je suis réaliste, comme Pierre va le devenir, si j'accepte que je suis faible, ça ne veut pas dire qu'il faut rester comme ça non plus, mais si j'accepte comment je suis, eh bien déjà, je ne serai pas orgueilleux, ni présomptueux, et puis ben, le Seigneur va pouvoir tout simplement travailler dans mon cœur. Et c'est comme ça que je vais commencer à mûrir. C'est pas en disant que je suis un super chrétien que je vais mûrir. C'est quand je reconnais que je suis nul. Bon, excusez-moi le terme, mais on est souvent comme ça, dans la faiblesse, dans la difficulté. Et c'est là que le Seigneur peut commencer à me travailler et à me faire grandir. Mais si je suis prétentieux, alors forcément, le Seigneur ne peut rien faire avec moi. Et de toute façon, un jour ou l'autre, hein, comme il a fait un croche-patte à Pierre, ben ça nous arrivera. Le Seigneur sait nous arrêter dans nos présomptions, dans nos prétentions, et puis nous dire maintenant, regarde comment tu es réellement. Et une deuxième fois, après avoir fait ce bilan avec Pierre, il lui confie à nouveau une mission, deuxième encouragement qu'il apporte, mais cette fois il dit, je te confie tout le troupeau. Ce n'est pas les agneaux, cette fois il parle dans le grec de toute la bergerie, on pourrait dire, évidemment de l'église qui va venir. Malgré la faiblesse de Pierre, il le responsabilise à un haut point. Ça c'est une leçon pour nous. Quand on sait que quelqu'un est faible, généralement peut-être dans la foi, etc., on dit, lui, il n'est pas capable, parce qu'il est faible. Eh bien, Jésus fait carrément le contraire. Alors, il sait à qui il s'adresse, il sait aussi beaucoup de choses que nous ne savions pas à ce moment-là, mais malgré tout, pour moi, il y a une leçon. Pas toujours dire qu'il y a des gens qui sont faibles et ne jamais les responsabiliser derrière. Au contraire, c'est peut-être quelque chose qui va les pousser à avancer tout doucement avec le Seigneur. Et vous savez, quand on est responsable, on fait un peu plus attention à notre manière de vivre, à notre foi, à notre vie spirituelle. Et il ne responsabilise pas Pierre parce qu'il est un super chrétien, vu le constat qu'il est en train de faire, mais simplement parce qu'il est maintenant en capacité de découvrir ses faiblesses, de découvrir qu'il n'est pas le top des chrétiens. Hein. Il sait maintenant qui il est et il sait que le Seigneur va l'aider dans sa vie spirituelle. Et pour cela, il va être responsabilisé. Il va devoir paître le troupeau, comme dit Jésus, le nourrir, le soigner, le guider. Et vous connaissez l'histoire de l'Église primitive. C'était vraiment pas facile, honnêtement. Et pourtant, il le fera, Pierre. Mais comment il a été préparé avant? Donc Jésus lui a confié cette mission. Et je pense que quand nous voulons servir le Seigneur, on a envie, hein. Enfin, j'espère que vous avez envie de servir le Seigneur.
Oui.
Oui. Et bien parfois, ça passe par le brisement. Et ça passe souvent par le brisement. Je disais à quelqu'un hier, moi j'aime la musique, et quand j'étais jeune chrétien, je voulais faire de la musique, monter une chorale, faire un orchestre dans l'église, tout. j'étais jeune chrétien. Puis j'ai dit à Seigneur, voilà. Et moi, on habitait à Arles à l'époque, et j'avais mon synthé au bord de la fenêtre. Il faisait toujours beau, vous savez, hein, dans le sud, il fait toujours beau, donc il ne peut jamais. Et ce jour-là, il y avait un gros orage, et ça m'a détruit mon synthé. Je rentre le soir, je dis, Seigneur, attends, je n'ai pas demandé la chorale, parce que j'avais besoin de ça. Et pendant 3 mois, le Seigneur m'a travaillé au fond de mon cœur pour me montrer que ça, c'était juste mon orgueil qui était en action, d'accord ? Et je pense pour chacun d'entre nous, au moment où on veut servir, il faut aussi se laisser faire par le Seigneur, parce qu'il veut briser nos prétentions, notre orgueil. Ce n'est pas des choses qui sont des fois spirituelles. On a envie, mais ce n'est pas ce que veut le Seigneur. Il veut d'abord nous travailler au fond de notre cœur. Et ensuite, seulement une fois qu'on a été formaté, brisé parfois, ben c'est là que l'humilité vient. C'est là que, enfin, je vais écouter vraiment le Seigneur, qu'il va pouvoir se servir de moi. Vous imaginez si Pierre avait pris l'Église en main avant de passer par cette situation-là ? Waouh, ça aurait été un carnage, à mon avis. Un vrai carnage. Et c'est pareil pour tout serviteur de Dieu, à un moment il sera brisé parce qu'il doit découvrir qui il est vraiment. Et on va voir pourquoi ensuite. Troisième étape, découvrir les limites de notre amour pour Christ. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir à quel point on aime le Seigneur tant qu'on n'est pas dans la situation. C'est clair. Hein. On peut imaginer, on peut faire un tas de choses, mais bon, face à la mort, ça fait quand même beaucoup réfléchir. Parce qu'on pense à notre famille, à nos enfants, etc. Et bon, je suis peut-être prêt des fois à mourir, mais... voilà, je laisse du monde derrière. Et ça, c'est des choix pas tout faciles à faire. Et cette fois, Jésus lui demande une troisième fois, mais s'il l'aime, mais cette fois, il emploie le même mot que Pierre. Est-ce que tu m'aimes de façon philéo et non plus agapao ? Il veut montrer tout simplement à Pierre que, tu vois, l'homme veut aimer, mais il a des limites. Il y a des limites qu'il ne peut pas franchir. Et l'homme, dans son amour, est complètement différent de ce Dieu qui nous aime profondément. Et c'est bien de le savoir. Jésus veut démontrer tout simplement aussi à Pierre que quoi que tu essaies de m'aimer ou l'intensité de l'amour que tu as pour moi, c'est peut-être pas ça le plus important, mais souviens-toi que moi, je t'aime. Et c'est ça qui est très important. Moi, en tant que Seigneur, je t'aime le plus profondément. Et c'est grâce à cet amour que nous sommes sauvés, que nous pouvons un jour être avec le Seigneur pour l'éternité. Pas grâce à notre amour pour le Seigneur, parce qu'on serait loin sinon. Mais en découvrant ses limites et en découvrant surtout l'amour de Jésus pour nous, alors ça change notre façon de vivre, parce que je ne vais pas vivre pour faire, mais je vais simplement dépendre de Dieu. Alors il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, on est bien d'accord, mais s'il m'arrive de chuter, et ça nous arrivera hélas comme Pierre, ben ça ne dépend pas de mon amour pour le Seigneur, ça dépend de son amour pour moi. Et Jésus était prêt à le pardonner. C'est formidable que ça fonctionne comme ça, non ? Vous imaginez si tout dépendait de notre amour pour le Seigneur ? On serait où aujourd'hui ? Pas très loin et pas très fier, à mon avis. Pierre est attristé alors, parce que cette fois Jésus dit, est-ce que tu m'aimes de façon philo ? Il comprend hein, ce qui se passe avec le Seigneur. Mais tout ça, ça va conduire à une profonde repentance intérieure. Hein, ça va certainement beaucoup le travailler ensuite. Il va réaliser son incapacité à aimer comme il voudrait. Parce qu'on veut des fois aimer vraiment le Seigneur sincèrement, mais on n'y arrive pas. Parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on a une nature pécheresse, parce qu'on est égoïste, orgueilleux. Tout ça, c'est notre réalité en tant qu'homme. On veut aimer le Seigneur, mais on n'y arrive pas. Mais ça permet en même temps d'être réaliste et d'avoir un vrai regard sur nous. Quand je me regarde dans le miroir et que je vois comment je suis vraiment, c'est-à-dire comment le Seigneur me voit, pas comme moi, je veux bien me voir, bah, ça nous calme. Si on est plein d'humilité, on va accepter le constat. Et ce n'est pas parce que le Seigneur nous montre notre faiblesse qu'il ne veut rien faire avec nous, au contraire. C'est là où il veut travailler avec nous. Il n'y a rien de mauvais en soi d'être humilié par le Seigneur, d'être réaliste sur sa foi, sur son amour, au contraire. C'est très bien, c'est ce que le Seigneur veut. Il préfère des gens humbles que des gens orgueilleux. Et Pierre va lui dire, mais tu sais toutes choses. Hein, parce qu'il lui dit, bon, tu me poses la question, si je t'aime, là tu me fais des jeux de mots, mais tu sais très bien ce que je pense au fond de mon cœur. Il sait que le Seigneur est omniscient, qu'il sait absolument toutes choses. C'est là où on peut se dire quand même que si tu savais qu'il était omniscient, si tu savais que quand il avait dit que tu allais le trahir et tout ça, pourquoi tu n'as pas réagi avant ? C'est curieux des fois. On sait qui est Dieu, on sait qu'il sait sur nous, mais on ne réagit pas. C'est bizarre. Mais Jésus va montrer à Pierre combien il veut l'aider à l'aimer. Et moi je trouve ça extraordinaire parce que Dieu veut nous aider à l'aimer. En réfléchissant un peu, c'est extraordinaire. Hein, parce qu'on ne va pas se débattre tout seul, on va faire notre part évidemment, mais à un moment, le Seigneur va m'aider à l'aimer. C'est génial, non ? Donc, on peut aimer Dieu, non ? Ben oui, puisqu'il nous aide. À Dieu, rien n'est impossible. Donc, il peut m'aider à l'aimer. Alors, si vraiment je ne l'aime pas ou si j'ai du mal à l'aimer, alors là, c'est vraiment ma faute parce que je freine l'élan qu'il a pour moi. Dieu veut m'aider à l'aimer. Ah là, c'est formidable. Il faudrait qu'on fasse ça avec les uns les autres aussi. Hein. Je vais vous aider à m'aimer. Faire la pub pour ça, je crois, non? Jésus lui confie encore une fois, la troisième fois, cette mission, le troupeau, de nouveau, paie mes brebis, la future église. Mais pour cette mission, je pense que Pierre va le comprendre tout doucement, il devait être humble, et parce qu'il est humble, il devient totalement dépendant de Dieu. Hein. Oh, il fera encore quelques bêtises plus tard, mais quoi, tout le monde fait des bêtises. Mais là, il comprend qu'il a besoin d'être accroché à Jésus-Christ pour avancer, et surtout par rapport à la mission qui lui est confiée. On a tous besoin d'être accrochés à Jésus-Christ. On ne doit pas paître fortement l'Église, mais on a chacun un don, on a quelque chose à faire. Et juste d'être chrétien, ben, quelque part, déjà, il faut s'accrocher au Seigneur. Vous savez, bon, la tradition dit que Pierre va mourir crucifié à l'envers, c'est la tradition, vous en faites ce que vous voulez, mais il va mourir en tout cas pour le Seigneur, et l'amour agapao, là, il va l'exprimer finalement. Il a commencé tout petit, et il a vu la réalité de qui il était, mais à un moment, parce que le Seigneur l'a transformé, il va être prêt cette fois à mourir pour le Seigneur. C'est fou comment Dieu peut changer le cœur d'un homme, notre cœur. On peut être des fois tellement lâche, et puis d'un seul coup, parce que le Seigneur nous a brisés, humiliés, il nous transforme, et on devient prêt même à mourir pour lui. Et le Seigneur veut faire ce travail que dans Pierre, c'est ça? Pour chacun d'entre nous. Eh oui. Alors, on ne sera pas des pierres, évidemment, mais on est tous des pierres vivantes. Et en tant que pierre vivante, je suis censé laisser faire le Seigneur dans ma vie, le laisser travailler, le crucifier, j'ai envie de dire, dans mon cœur, pour que tout cet orgueil, cette prétention, tout cet amour qui est basique bien souvent devienne réel et utile aussi au Seigneur. Jésus voulait soigner cet orgueil chez Pierre, ses prétentions, et il voulait surtout lui montrer les limites pour qu'il devienne maintenant vraiment humble. Pour nous, deuxième chose, peut-être la nécessité parfois de s'arrêter dans notre course chrétienne et nous dire où j'en suis avec le Seigneur aujourd'hui. Bon, chacun le sait, enfin à peu près. Mais c'est bien des fois de s'arrêter, de demander à Dieu, pas au voisin, pas à mon mari ou à ma femme, mais de demander à Jésus-Christ où est-ce que j'en suis vraiment avec toi aujourd'hui. Parce que le Seigneur veut nous diagnostiquer, veut faire le bilan de cet amour pour qu'on ait un vrai amour pour le Seigneur. L'amour, comme on l'a vu, se doit d'être vigilant. D'abord, l'amour, c'est que chaque jour, il va falloir soigner son orgueil. Au moins beau le soigner la veille, le lendemain, ça revient. C'est une plaie, l'orgueil. Et on se fait vite avoir. Mais parce qu'on est maintenant réaliste et vigilant, on sait qu'on peut tomber dans cela. Et donc forcément, mon amour fait attention à cet orgueil. Quand je me compare aux autres, quand je me sens supérieur, ou je ne sais pas, tout ça, c'est à bannir du vrai amour. C'est pas comme ça que je vais aimer mon prochain. Ça va pas marcher. Il privilégie aussi l'humilité, ce vrai amour, parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas parfait lui-même, il sait très bien qu'il peut chuter lui-même, et donc il se dit, oh, calmons nos prétentions, restons réalistes, ça c'est le vrai amour pour le Seigneur. Il se veut, comme Pierre, totalement dépendant de Christ, parce qu'il sait aussi qu'il a des limites humaines. Mais ce n'est pas parce qu'on a des limites humaines qu'on ne peut pas aller plus loin, mais c'est les reconnaître qui permettent d'aller plus loin. C'est ça qui nous permet de suivre vraiment le Seigneur. L'amour désire aussi la transformation. Si je connais mes faiblesses, je ne vais pas me dire « Oh, ben, je suis faible, ben, je vais rester comme ça. » C'est souvent ce qu'on fait, hélas. Non, le Seigneur veut nous montrer nos faiblesses parce qu'il veut maintenant travailler au fond de notre cœur. Il veut qu'on découvre nos prétentions, il veut qu'on découvre nos limites, et ça permet, quelque part à un moment, si on fait vraiment le bilan, de se rendre compte que finalement, on n'aime pas assez le Seigneur, ou jamais assez en tout cas. Mais en même temps, on va découvrir la vraie nature de notre amour pour lui. Et quand on découvre à quel point on aime le Seigneur, alors à ce moment-là, on crie à Dieu, « Change-moi, transforme-moi. » Parce que là, ce n'est pas possible d'être à ce stade-là. « Transforme-moi pour que j'apprenne à t'aimer de façon agapao, comme on l'a vu pour Pierre. » L'amour réalise le grand amour aussi parfait de Dieu. Malgré que Pierre ait renié trois fois Jésus, malgré ses prétentions, ben Jésus aime Pierre. C'est génial. Si quelqu'un vous embête terriblement un jour dans l'église ou ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui.
Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a aimé. C'est pas toujours simple, je sais. C'est pas simple d'aimer celui qui vous fait du tort. Mais Jésus est revenu voir celui qui lui a fait du tort, l'a aimé et l'a relevé. Et ça, c'est formidable. Juger, c'est facile. On écrase les gens et on les laisse dans leur désarroi. La difficulté de la personne qui vous fait du mal, c'est vraiment pas évident, je sais. Mais ça permet d'abord d'aller beaucoup mieux, les deux, et puis de relever aussi la personne. Et chaque fois que je m'écroulerai, ne dites pas dans votre cœur, ou ce que le diable vient des fois nous dire, le Seigneur ne te pardonne plus, ou on ne peut plus rien faire avec toi, parce que là, voilà. Non, le Seigneur vient et veut vous relever parce qu'il nous aime. Dieu nous aime, disait un auteur, hein, l'amour est la perfection de la nature divine par laquelle il est éternellement poussé à se communiquer lui-même. C'est la nature de Dieu d'être plein d'amour pour chacun d'entre nous. Et nous, on n'en connaît peut-être qu'une partie, enfin, parce que l'amour de Dieu, je pense, est bien plus grand que ce que je peux ressentir, mais cet amour pour Dieu est là, et à nous de le saisir, à nous d'en profiter aussi. Si le monde savait combien il est aimé, on ne le savait pas autrefois, hein, et on vivait comme on pouvait, et si tout le monde pouvait découvrir l'amour de Dieu pour lui, quelle que soit la condition dans laquelle il est, quelle que soit la chute, quels que soient les péchés, le Seigneur m'aime. Il n'aime pas le péché, mais il m'aime. Et il a tout fait justement pour que je puisse être débarrassé du péché et d'être sauvé. Dieu veut m'accueillir dans l'état où je suis aujourd'hui. Alors vous connaissez, j'imagine, moi je ne vous connais pas tous, mais Dieu vous accueille. Il n'y a aucun problème. Il suffit simplement de s'approcher de lui. Petite histoire par rapport à l'amour d'un père, hein, qui ressemble à cet amour de Dieu. Un dimanche soir, un certain Moody, alors pour les anciens vous connaissez peut-être, hein, peut-être pas les plus jeunes, mais prêchait sous une grande tente du cirque à Chicago. Son texte, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Après qu'il eut fini, un petit garçon fut apporté à la plateforme par un officier qui avait trouvé l'enfant qui déambulait perdu dans la foule. Monsieur Moody le prit dans ses bras et demanda que la foule regardât l'enfant perdu. Et il dit, le père est plus inquiet de trouver le garçon que le garçon d'être trouvé. C'est pareil qu'avec notre Père Céleste, il vous a suivi, ô pécheur, pendant de longues années et il vous suit encore. À un moment, un homme avec un visage blême se fraya un chemin en jouant des coudes jusqu'à la plateforme. Le garçon, l'ayant vu, courut se jeter dans les bras étendus de son père. La multitude qui était témoin de la scène fut touchée dans son cœur. Ainsi cria Moody, voyez comment Dieu vous reçoit si vous courez à lui aujourd'hui. Combien de temps le Seigneur vous a couru après, avant que vous le connaissiez? Un jour, on le saura, parce que moi, je poserai la question au Seigneur, comment tu as fait pour m'amener à toi? Parce que si vous connaissez mon histoire, vous diriez, jamais j'aurais pu me convertir. Et le Seigneur nous court derrière. Alors, après la vie chrétienne, il nous court encore derrière. Il n'est pas fatigué, le Seigneur, hein, heureusement. Et il va nous courir jusqu'au bout parce qu'on a besoin de grandir et de l'aimer, d'apprendre à l'aimer, surtout d'apprendre que l'on est aimé par le Seigneur. Et puis, j'ai besoin de faire ce diagnostic aussi pour être préparé au service. On l'a vu un peu avec Pierre. Hein. Si Jésus va voir Pierre, c'est pour restaurer la confiance. Parce que j'imagine que Pierre, quand il a revu Jésus ressuscité, ne pas être bien fier. Et je ne sais pas si par lui-même, il serait forcément allé à le voir. Et peut-être dans son cœur, le diable, hein, peut-être le travaillait aussi en disant, mais attends, tu l'as renié, Jésus ne va plus jamais t'accueillir. Un peu certainement ce qui est arrivé à Judas, et lui, par contre, il s'est pendu. Mais le Seigneur va restaurer cette confiance, et c'est pour ça qu'il va l'inviter à un repas. Il veut rassurer de la fidélité que Jésus avait vis-à-vis de Pierre. Hein. Si on est une personne qui ne nous pardonnons pas, certainement que Pierre était dans cet état-là à ce moment-là, ben, si je ne sais pas me pardonner, je n'arriverai pas à pardonner les autres. Si je ne sais pas m'aimer moi-même, je ne saurais pas aimer mon prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, il ne s'agit pas d'égocentrisme, évidemment, on est bien d'accord, mais si moi-même, dans mon cœur, je ne m'aime pas, j'ai du mal à aimer les autres. C'était mon cas avant de me convertir, je détestais la société, je détestais tout, et forcément, je n'aimais personne. Et heureusement que le Seigneur a changé tout cela dans mon cœur. Et Pierre, certainement, est dans cette situation-là où il s'enroulait à mort, et donc forcément, comment aimer les autres. Jésus, en renouant la relation avec Pierre, va lui assurer non seulement le pardon, son amour, et qu'en plus, comme il le responsabilise, c'est que c'est bon, c'est réglé. Les choses sont passées, maintenant, tu as compris les choses, avançons tout simplement ensemble. C'est beau, c'est magnifique. Quelqu'un vient vous embêter, vous fait un tort pas possible, vous allez le voir, vous lui pardonnez, vous discutez, vous le responsabilisez. Et puis on repart ensemble. C'est ce que fait le Seigneur tout simplement avec Pierre, et c'est ce qu'il voudrait qu'on fasse les uns avec les autres aussi. Nous, on préfère se disputer, et puis avoir de l'amertume. Mais au moins là, les choses avancent. Ça nous coûte, ça c'est clair, hein, mais à Jésus, ça coûte encore plus. Parce que chaque jour, il nous ramasse. Chaque jour, il nous pardonne. Et il y en a des millions et des millions à pardonner tous les jours, plusieurs fois. Vous imaginez le travail qu'il y a derrière. Mais il nous aime encore. Mais il a permis aussi cette humiliation pour que Pierre devienne dépendant, et nous-mêmes, parfois, on a besoin de cette dépendance à Christ pour commencer à servir le Seigneur. Jésus va faire passer un examen de conscience à Pierre pour qu'il connaisse à présent sa vraie valeur en tant qu'homme, tout simplement. Mais il va aussi découvrir la valeur qu'il a vis-à-vis du Seigneur. Maintenant, dans cette mission qu'il va avoir, il ne va plus compter sur ses forces. Au contraire, il va s'appuyer uniquement sur le Seigneur. Et si je veux servir le Seigneur, on peut aller avec nos propres forces. Ça va durer un certain temps et à un moment, on s'écroule. Combien de fois j'ai vu ça? Parce qu'on pense qu'on est fait pour ça, parce qu'on est prétentieux, on y va et puis on s'écroule. Non, je pense que, comme pour Pierre, il faut s'arrêter, s'analyser, devenir dépendant du Seigneur. Et c'est comme ça que je vais pouvoir avancer. Pas avec mes forces, mais avec les forces que le Seigneur me donnera. Mais j'ai besoin de passer par cette étape pour servir correctement. Être brisé, être humilié par le Seigneur, ce n'est pas pour se moquer de nous qui fait ça. C'est simplement pour qu'on aille beaucoup mieux. J'imagine que Pierre, après tout cela, il devait être en paix dans son cœur. Non, mais bon, ça passe par des moments un peu difficiles. Pour apprendre aussi la réconciliation, hein, Jésus a mis à l'aise par un repas. Ce n'est pas la première fois dans la Bible qu'on voit que, vous vous souvenez d'Élie, hein, Élie est un grand prophète qui avait fait un grand miracle avec les prophètes de Baal, puis d'un coup la reine Jézabel veut le faire tuer, qu'est-ce qui se passe? Il tombe en pleine dépression. Et Dieu va l'approcher par un repas. Donc si ça ne va pas avec quelqu'un, faites-lui un repas. Moi j'aime bien la choucroute, ça ira beaucoup mieux après. Mais c'est des choses simples. Ça vaut ce que ça vaut les psychologues, mais des fois, il y a des choses simples qu'on peut faire pour aider quelqu'un. Oui. Là, encore une fois, Jésus a fait un simple repas, a invité son disciple, et ils ont conversé ensemble. Mais c'est Jésus qui prend l'initiative. C'est ça qui est important. Et c'est ce que dit la Bible, hein, dans Matthieu 18, si quelqu'un t'a offensé, n'attends pas qu'il vienne te demander pardon. C'est à toi d'aller le voir pour lui dire « tu m'as fait mal ». Eh oui, parce que nous, on réagit dans le sens inverse. On espère toujours que l'autre arrive. Et vous savez, si on n'y va pas, l'autre, il n'a peut-être pas su qui vous a fait du mal. Il n'a peut-être pas fait exprès, des fois. Ou alors, il s'en fiche de vous. Et vous, qu'est-ce que vous avez? L'amertume. C'est difficile d'y aller, mais ça règle bien souvent les autres. Après, s'il ne veut pas entendre, deux, trois personnes, puis devant l'assemblée, puis voilà. Mais Jésus a pris l'initiative d'aller vers celui qui l'avait offensé. Pas évident. Mais il y a du tact aussi de la part de Jésus, là. Il n'est pas venu accuser son disciple, il ne l'a pas agressé. Le seul but qu'il avait, oui, il était coupable, mais le seul but qu'il avait, c'était de le réconcilier avec lui, tout simplement. Et ça, c'est formidable. Dans d'autres textes de la Bible, on voit que Paul, par exemple, dénonce peut-être le péché dans l'Église, mais son but, ce n'est pas d'accuser, c'est que la personne sorte de ses habitudes et puis puisse être restaurée avec le Seigneur. Si mon but est comme cela quand je vais reprendre quelqu'un, alors c'est formidable, ça s'appelle l'amour, tout simplement. C'est facile des fois de rien dire quand quelqu'un est dans la faute. Ça s'appelle la lâcheté. Oui. On se dit, de toute façon, c'est son problème. Non, il faut devoir avoir le courage d'aller voir la personne et la reprendre, mais avec le but de la restaurer et non pas de la casser. Et puis aussi pour apprendre à encourager. J'imagine qu'après avoir vécu cela, en plus d'avoir été responsabilisé, Pierre a dû faire un sacré boulot dans sa tête et dire, mais pourquoi le Seigneur a agi comme ça avec moi? Je ne méritais pas tout cela. En plus, il me confie maintenant ses brebis, l'Église, mais il est bizarre ce Seigneur. Hein, naturellement, on ne fait pas ça. Ben lui, il a appris maintenant, après à être humilié, comment il va pouvoir agir avec le troupeau. Je l'ai dit tout à l'heure, s'il n'avait pas passé par ce brisement, ben à mon avis, il aurait fait du mal, des dégâts dans l'Église, tout simplement. Il y en a qui le font parce que justement, il ne passe pas par là. Mais il a été humilié et maintenant, il sait comment aller vers les autres. Il sait comment les soigner, il sait comment les encourager, avec les faibles, avec les forts, mais il sait comment faire dans son ministère. Et on a besoin de passer par cette humiliation pour vraiment servir le Seigneur. Et même quand on est passé, on n'est pas parfait. Parce que Pierre va faire quelques bêtises quand même après, mais il reprendra un petit coup d'humiliation et puis on repart de plus belle. Et c'est ça la vie chrétienne. Hein. Croyons pas qu'on soit arrivé à un moment en disant, ça y est, je suis au top. Ça recommence tous les jours, hélas. Plus ou moins difficilement. Mais voilà pour nous-mêmes. Si nous voulons servir le Seigneur, je crois que Pierre est le parfait exemple. La première chose avant de vouloir servir, c'est de dire, Seigneur, brise-moi. Vous dites ça tous les jours? Non. Parce que ça ne nous vient pas du tout. Nous, on veut peut-être servir pour notre orgueil, pour se montrer devant les gens, mais jamais pour être brisé. Ça ne va pas. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et le Seigneur, alors on peut commencer à servir, mais au fur et à mesure, si on se laisse faire par le Seigneur, il va nous soigner tout cet orgueil, toute cette prétention, pour qu'on devienne complètement dépendant de lui. Et si toute l'Église, je ne parle pas d'ici, mais peut-être dans le monde entier, était réellement dépendant de Dieu, il n'y aurait jamais de dispute. Ou alors on se pardonnerait tout de suite. Non, ça serait chouette, une Église comme ça. C'est normalement l'Église, non? Vous aimez pardonner le prochain? Je vous invite à manger, vous direz tout de suite oui, hein. Mais là, pardonnez. Hein. Eh oui, mais le Seigneur m'a pardonné. Moi, j'ai mon credo, d'une certaine manière, c'est de me dire chaque fois que j'arrive pas à pardonner à quelqu'un, je vais voir la croix. Il est en train de mourir pour moi, là. Il a des clous dans les mains, il est en train de saigner. Tout ça pour moi. Comment moi, je peux pas pardonner à quelqu'un, alors que moi, j'ai fait pire que la personne à qui je dois pardonner. Voilà comment on peut apprendre à pardonner. Mais il faut faire ce bilan dans notre vie, une fois, de notre amour pour Jésus, parce que sinon, on n'avancera jamais. Ça permet de mieux le suivre, ça permet d'avoir des yeux réels sur notre amour, et en plus, ça va permettre un service vraiment humble et dépendant du Seigneur. Pour terminer, ne nous contentons pas d'un amour filéo. Hein. Repartons pas ce matin en disant « Ouais, j'aime bien le Seigneur, il est sympa, voilà. Ouais, » bon, on est comme ça, je pense la plupart même. Il m'a tout donné à Golgotha, on l'a dit. Alors cet amour doit être transformé. Et il faudrait que je parte en me disant, Seigneur, voilà, je sais où j'en suis avec toi, mais maintenant travaille mon cœur, change-le. Si vous ne le faites pas, c'est lui qui le fera de toute façon à un moment. Donc autant être d'accord. Si je veux croître spirituellement, ben souvent on a l'envie, la prétention peut-être de vouloir grandir avec le Seigneur, d'être plus fort spirituellement, etc. Ben, ça passera toujours par le bilan, la réalité et le brisement. Sinon, je ne grandis pas. Je ne peux pas changer autrement. Mais ça fait du bien. Parce qu'avec le recul, on se dit, merci Seigneur d'avoir fait ça dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai pu avancer et grandir en maturité. Le Seigneur va nous conduire à l'humilité, à la dépendance de lui, pour éviter l'orgueil, pour éviter de faire du mal aux autres, pour éviter soi-même la chute, tout simplement. Alors des chutes, on en a, mais je parle de la chute sévère, peut-être comme Pierre à ce moment-là. Mais il faut que je laisse faire le Seigneur dans ma vie pour que cela se mette en place. Et ce qui est formidable, c'est que certainement qu'on se sent tous faibles en tant que chrétiens, mais le Seigneur veut vous responsabiliser dans un ministère, dans un travail. Je ne sais pas, il y aura peut-être des missionnaires un jour ici, ou peut-être des évangélistes, je ne sais pas. Mais en tout cas, malgré votre faiblesse, ne dites pas « Ah, je ne suis pas capable de faire les choses, hein, je me sens minable. » Le Seigneur dit non. C'est bien que tu te sentes faible, ben justement, c'est là que tu peux maintenant te mettre à travailler. Si tu te... Vous savez, si vous venez en me disant « Moi, je sais tout faire », je dis « Reste assis, hein, voilà, reste assis, c'est mieux. » Mais voilà, je suis faible, c'est bien si je le réalise, mais ça ne veut pas dire que je n'ai rien à faire, ça ne veut pas dire que je n'ai pas un don, ça ne veut pas dire que je ne peux pas me mettre au travail dans mon église locale. Le Seigneur veut me responsabiliser. On ne doit pas servir avec notre chair, mais on doit se laisser transformer par le Seigneur. Et même au fur et à mesure du service, hein, vous verrez que le Seigneur nous transforme et nous transforme encore et encore un peu plus. Alors, vous avez envie d'être transformé ?
Oui. Oui, oui.
Oui, 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 oui. On va voir ce qui va se passer demain. Hein ? Ah oui, mais on a plein de zèle ce matin, mais quand ça va arriver, c'est pas toujours évident. Mais laissons-nous faire, parce que le Seigneur sait comment le faire. Et quand il le fait, c'est pas pour nous écraser, c'est pour nous en sortir, justement. Et beaucoup plus grand et beaucoup plus fort. Et cela me permettra vraiment d'apprendre à aimer notre Seigneur. Je pense qu'un petit bobo, de temps en temps, le Seigneur le mérite. Hein. C'est-à-dire votre orgueil qui est un peu froissé parce que le Seigneur le touche un petit peu. Mais je crois que ça vaut le coup par rapport à l'amour que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous aide dans ce domaine-là. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole et merci, j'ai envie de dire pour Pierre, pour son histoire, même si pour lui ça ne devait pas être drôle, j'imagine, mais merci de nous avoir laissé ce témoignage de quelqu'un de prétentieux qui se croyait capable de tout, même prêt à mourir pour toi et qui finalement est face à la réalité de son cœur et de son amour pour toi. Merci aussi parce que tu ne l'as pas laissé de côté, au contraire, tu l'as relevé, tu l'as aimé, tu l'as responsabilisé et Quelle leçon tout simplement pour nous, Seigneur. Prends-nous à nous laisser faire par toi de la même manière, à accepter ces invitations, ces repas entre guillemets que tu veux avoir avec nous. Je pense que ça se fait tous les jours dans la lecture de notre Bible, dans la prière et peut-être d'une autre manière. Mais aide-nous à accepter ces temps, à prendre le temps aussi de partager ce repas avec toi et de nous montrer aussi comment nous sommes réellement, comment est notre amour, comment est notre service, cette qualité de l'amour que nous avons pour toi, pour que tu puisses le peaufiner, le travailler, l'approfondir et le rendre absolument mature, Seigneur. Merci parce que tu veux aussi nous responsabiliser. N'attends pas qu'on soit des chrétiens parfaits, au contraire. Tu veux simplement qu'on soit simple. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir te servir de chacun d'entre nous. Tu connais le service que tu veux donner à chacun ici. Je ne sais pas si on y réfléchit vraiment, mais peut-être que tu mettes ça dans le coin de notre cœur quelque part et que nous puissions réfléchir comment te servir, Seigneur. On te remercie d'être tellement pédagogue avec nous et nous allons surtout te remercier pour tout l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit glorifié ce matin. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.